Bonjour à tous. Nous allons essayer de tenir un séminaire de droit politique aujourd'hui sur le juge constitutionnel et sur, plus spécifiquement sur la question de sa légitimité. Pour ce séminaire, nous avons comme intervenant Michael Tsifaras de Sciences Po, Olivier Beau de Paris 2, Denis Barranger de Paris 2, Armel Le Dibélec également de Paris 2, Guillaume Dussault de Sciences Po, et le plaisir d'accueillir aussi Pierre Brunet de Paris 10.
Excusez-moi.
On est spécialement heureux de t'avoir, Pierre, c'est la première fois que tu es intervenant au sein du séminaire. J'essaierai pour ma part d'animer les débats. Carlos Pimentel, donc professeur à Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Pourquoi est-ce que ce serait moi qui animerais les débats? Je me suis un peu posé la question. J'y connais pas grand-chose, voire rien du tout. Mais c'est peut-être justement la raison pour laquelle je suis le modérateur. Je voulais également saluer la présence de pas mal de collègues fort éminents. Marianne Courandet, Jean Latringe, Renaud Baumert, que j'en profite pour féliciter, puisqu'il vient d'obtenir la grâce. Sébastien Roland, etc. Éric Deschemaker d'Edimbourg, qui nous fait également l'amitié d'être là. On a voulu essayer d'aborder la question de la légitimité du juge constitutionnel dans le cadre de ce séminaire. Je m'excuse par avance, mon introduction pour la première session sera un petit peu longue. J'essaierai de me faire pardonner en faisant beaucoup plus court lors de la deuxième. Une introduction un petit peu longue parce que c'est en quelque sorte la première fois que nous allons essayer d'aborder de front la question du juge dans le cadre une réflexion de droit politique et essayer de la placer dans une perspective de droit politique pour voir si ça peut donner des choses intéressantes. Et de ce fait, on a pas mal travaillé, préparé ce séminaire, on s'est demandé comment l'organiser, enfin on a essayé de l'aborder avec soin. Poser cette question de la légitimité parce que elle est de plus en plus rarement posée. On a très bien vu avec la QPC à quel point il y avait une espèce d'équation qui semblait être une évidence pour quasiment toute la classe politique et la plus grande partie de la doctrine, à savoir plus de contrôle du juge égale plus d'état de droit. Et le contraste est à cet égard très très vif, par exemple, avec les années 90, lorsqu'on parlait encore de l'exception de la constitutionnalité, où là, il y avait des discussions qui étaient quand même beaucoup plus animées. Il me semble, dans une perspective de droit politique, la légitimité, ça n'est pas un donné, c'est peut-être même pas un acquis, c'est essentiellement un problème. Parce que il ne suffit pas de raisonner en termes de légitimité d'origine. Je suis légitime parce que je suis élu, bon, et non, ça ne marcherait pas pour le juge. Ou bien je suis légitime parce que je suis organiquement impartial. Il n'est pas sûr que ça marcherait parfaitement bien pour le Conseil constitutionnel. Mais plutôt ce qu'on pourrait appeler une légitimité d'exercice dans la façon de prendre les décisions, de les motiver, de les justifier. Pour aborder ces questions, on a souhaité, comme d'habitude, partir de textes, mais on a souhaité avoir des textes en plus petit nombre que lors d'autres séminaires. Et on a souhaité également renouer avec un type d'exercice qu'on ne pratiquait plus guère depuis quelques années, à savoir, comme on l'avait fait au cours des premiers séminaires de droit politique, partir de textes, d'un texte, en l'occurrence de deux, rédigés par des personnes intervenantes au séminaire. J'espère que ce n'est pas trop par narcissisme effréné, mais plutôt par constat que, dans ces cas-là, lorsque l'auteur était là, lorsque le papier était récent, on avait tendance à parler de manière plus serrée, plus proche des textes et souvent avec des résultats plus intéressants. Lors de cette première session, on va essayer de dresser une sorte d'état des lieux à partir de l'exemple du juge constitutionnel français, Je rappelle que la règle coutumière et informelle veut que, lors de la première session, ce soit essentiellement les intervenants en titre qui parlent, mais que lors de la deuxième session, après la pause, donc la salle peut également s'exprimer, y compris si elle le souhaite, revenir sur des questions qui ont été débattues lors de la première session. Donc, état des lieux à partir d'un texte de Guillaume Tussaud et d'un texte de Denis Barangeau. Guillaume nous dit notamment qu'il ne faut pas espérer de la QPC des miracles, et en particulier qu'elle démocratise la Constitution, que le citoyen s'approprie enfin directement ses droits, et que ce sera peut-être plutôt les professeurs de droit constitutionnel qui se l'approprieront, et que c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Il nous dit aussi que la portée de cette réforme est peut-être à relativiser dans la mesure où nous trouvons dans un cadre normatif qui est largement transnational. Et à cet égard, il souligne d'abord les idiosyncrasies de procédure de la QPC, mais également, dit-il, son côté peut-être trop franco-centré, si j'ai bien compris. Et quant à Denis Barangeau, il nous montre dans son article que le Conseil constitutionnel utilise toute une série de notions qui sont souvent tout à fait déterminantes pour ses décisions, alors qu'elles ne sont pas dans la Constitution. Alors on le savait déjà pour pas mal d'entre elles, les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté, etc., etc. Il y a toute une liste. Mais, en tout cas, c'est ce que j'avais tendance à croire, c'était plutôt l'exception. Ces notions un peu étranges venues d'ailleurs. Et en lisant Denis, son article m'a beaucoup frappé, parce que, moi je l'ai compris comme ça en tout cas, ça, il tente à nous montrer que non, c'est pas l'exception, c'est plutôt la règle, et que c'est presque constant que le Conseil constitutionnel recourt à des notions telles que, alors, la bonne administration de la justice, les nécessités de l'ordre public, la protection de la santé publique, les exigences du service public, la clarté et l'intelligibilité de la loi, etc., 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 qui, bah, tout simplement, ne font pas partie des normes de référence, et que Denis regroupe donc sous l'étiquette empruntée à Duncan Kennedy de policy arguments, c'est-à-dire d'arguments qui sont politiques, mais qui sont politiques aussi au sens, et peut-être avant tout, se veulent politiques au sens de nécessité de la vie en société, quelque chose comme ça. Alors, à partir de là, je serais tenté de poser deux questions. La première, pour utiliser une expression très michaélienne, qu'est-ce que ça nous dit sur l'office du juge constitutionnel? Et la deuxième, qu'est-ce que ça nous dit également sur notre manière à nous, professeurs de droit, de rendre compte de ces décisions et de la manière dont ils résonnent? À l'évidence, ce que Denis met en lumière, c'est de la politique. Mais laquelle? À cet égard, on peut essayer de caractériser ça, de comprendre ça de diverses manières. Denis lui-même lançait deux pistes. Il y a une piste un petit peu rousseau-kantienne, si je puis dire, le test de l'universalité. Je ne développe pas, on en parlera lors des débats, parce que je ne voudrais pas être trop long. Je ne suis pas forcément extrêmement convaincu par ce biais-là. Le deuxième biais, qui occupe moins de place dans son article, c'est l'idée de raison d'État. Et ça, je trouve ça nettement plus... Enfin, j'avoue être plus convaincu par cela pour deux raisons. Bah, d'abord, parce que c'est plus provocateur, donc c'est plus rigolo pour un séminaire. Et d'autre part, et aussi parce que, évidemment, si c'est de l'histoire, forcément, moi, je suis nécessairement d'accord avec preneur. Parce que ce qui me frappe, et on aura l'occasion d'en débattre peut-être, c'est que ces policy arguments, ils sont, me semble-t-il, vous confirmerez ou infirmerez, presque toujours utilisés pour restreindre une liberté, pour motiver une limitation au principe d'égalité, etc. C'est-à-dire, en tout cas c'est l'impression que j'ai, pas pour appliquer la règle, mais pour l'écarter, au contraire, pour déroger à la Constitution. Au sens fort de ce terme, au sens fort que la notion de dérogation pouvait avoir dans la puissance absolue jusqu'au XVIIe siècle. Et non pas la notion très irénique de conciliation des libertés ou de droits qui sont éventuellement contradictoires. Non, j'ai le sentiment que ça va beaucoup plus loin. Et donc, je me demande dans quelle mesure on ne pourrait pas parler d'une version rationalisée de la raison d'État, un peu comme on a pu parler du parlementarisme rationalisé. Il y a une grande différence, c'est que c'est fait en termes généraux et abstraits. Mais, au fond, qu'est-ce que nous dit Denis ? Ben, il nous dit, enfin, c'est comme ça que je l'ai compris, le juge met constamment en balance la norme de référence avec quelque chose qui est de l'ordre de l'intérêt supérieur de l'État. Et lorsque nous disons à nos étudiants, ben voilà, le juge constitutionnel, lui, il a comme norme de référence le code de constitutionnalité, point barre, ben c'est peut-être pas ça. Certes, il y a le bloc de constitutionnalité, mais il y a aussi tout un ensemble de notions qui, loin d'être exceptionnelles, sont presque utilisées de manière, enfin, quasi constante, en tout cas dans la pratique quotidienne du juge. Alors bon, pour aller jusqu'au bout de l'aspect un peu provocateur de l'introduction, l'arrêt RIS du Conseil d'État
tombé hier,
à propos des circonstances exceptionnelles, avait illustré un mode de raisonnement très particulier, puisque le Conseil d'État nous disait le président de la République a pour rôle d'exécuter la loi, et donc ça lui donne le droit de ne pas l'exécuter. C'est quand même un raisonnement assez extraordinaire. Aujourd'hui, je voudrais poser la question peut-être en ces termes. Le pouvoir du Conseil constitutionnel de faire respecter la Constitution, c'est le pouvoir de l'écarter. Caricature, volontairement. D'où la deuxième question que je suis tenté de poser après la lecture de l'article de Denis, parce que je n'avais pas vu tout ça. C'est ce qui m'a beaucoup frappé. Comment se fait-il que nous, professeurs de droit, on ne voit pas forcément ce genre de choses, qu'il faille les mettre en lumière pour que ça devienne visible? Et pourquoi, serais-je tenté de dire, pourquoi croyons-nous si souvent le juge sur parole? Le juge, évidemment, lui, il est obligé de dire qu'il applique la Constitution, il ne peut pas faire autrement. Et comme disait je ne sais plus qui, nous ne sommes pas forcés de le croire. Et nous savons cette idée d'un juge qui applique la Constitution est une fiction. Nous sommes même payés pour le savoir. Et pourtant, très souvent, on accepte quand même, dans beaucoup de cas, de continuer à traiter cette fiction comme si elle était une réalité. C'est un petit peu... Enfin, la question du pourquoi est un petit peu celle sur laquelle j'ai personnellement abouti après avoir lu le papier de Denis. Voilà, toutes mes excuses pour cette introduction abominablement longue. Nous allons ouvrir les débats. Armel, tu dévoues toujours.
Comme souvent, pour... voilà. Après, les couteaux peuvent sortir et les coupes le voir. Assez simplement, ce que nous abordons ici, qui n'est pas nouveau, mais enfin, il s'agit d'essayer de problématiser, de formuler des idées, des théories, peut-être des thèses, sur ce problème bien ancien, mais néanmoins qui est toujours brûlant, trouve une confirmation assez éclatante dans la théorie constitutionnelle allemande récente, dans l'école critique du droit constitutionnel allemand, avec un livre qui sera, j'espère, présenté, si l'on peut dire, au lectorat français dans la Revue Politicum dans quelques temps, fait par des jeunes, relativement jeunes professeurs allemands, qui ont été d'ailleurs auteurs dans cette revue que l'on a fait venir ici, Oliver Lepsius, qui a parlé pour la Cour de Karlsruhe de la Cour de Karlsruhe comme die rechtssetzende Gewalt, c'est-à-dire le pouvoir qui fixe la référence. Pour expliquer, et il décortique ça par une analyse très, très fine, très minutieuse de la jurisprudence, de montrer comment la Cour de Karlsruhe pose les références qu'on appelle la Constitution, comment, par des choses très fines et très techniques, la Cour pose au fond la référence. Donc, ce discours, la doctrine allemande maintenant commence à s'y attaquer, ce qui était pendant longtemps plutôt marginal. Et au fond, ça rejoint la deuxième observation que je voulais faire, c'est que pourquoi croyons-nous si souvent le juge sur parole quand il prétend qu'il applique la Constitution? Eh bien, c'est assez élémentaire ce que je dis là, c'est que nous vivons encore sur le paradigme la vérité du droit juridictionnellement exprimé. On a pas toujours vécu sur ce paradigme-là à l'époque de la modernité et de l'avènement de la démocratie libérale, mais depuis bien longtemps est entamé ce mouvement-là qui a trouvé notamment un terrain favorable après les expériences totalitaires dans certains pays, l'Italie, l'Allemagne par exemple, et en France, avec un autre parcours, on a encore pour le pouvoir juridictionnel ou l'autorité juridictionnelle tout de même encore ce discours chez les civilistes, chez les professionnels du droit, et ils nous disent qu'en effet ils ont une certaine marge d'interprétation, etc., mais que malgré tout ils appliquent la loi ou le droit. Donc on n'est évidemment pas sorti de ce paradigme-là, malgré toutes les théories qui ont enrichi la problématique sur la théorie réaliste de l'interprétation, sur le pouvoir créateur du juge. Donc en fait c'est très difficile, et puis il y a ce que la doctrine peut discuter, ce que les artistes du droit, pas les scientifiques du droit, mais enfin, nous sommes essayent de discuter, et puis il y a ce qui vaut pour le discours commun. Le juge, lui, n'a pas intérêt à se présenter comme celui qui fixe les références, puisqu'il va devoir tenir ce discours de la vérité du droit qu'il ne fait qu'exprimer. Et ensuite, c'est une question peut-être d'opinion publique, c'est-à-dire tant que les décisions prises par les cours supérieures ne choquent pas la majeure partie de la population ou de trop grandes catégories de population, on va considérer que le juge est légitime, puisque dans l'ensemble, il rend de bonnes décisions, est-il considéré. Donc tant que ça, évidemment, ça ne bouge pas, on aura du mal à sortir, je crois, de ce paradigme que le juge applique la Constitution, les règles de la Constitution. Je m'arrête là.
Oui. Il y a un autre aspect, pour rebondir à ce que tu as dit, il y a un autre aspect qui m'avait frappé, alors je ne sais pas si c'est juste ou pas, mais en lisant le papier de Denis, c'était, d'une certaine manière, ce que ça nous dit, c'est aussi qu'une constitution, par elle-même, elle est inapplicable. Et que si on s'en tenait à la constitution, on n'y arriverait pas, tout simplement. Pour la faire fonctionner effectivement, de manière réaliste, il faut nécessairement l'écarter, souvent, ou tout au moins la mitiger dans beaucoup de cas, et parfois l'écarter purement et simplement.
Si tu dis écarter, ça suppose qu'il y a déjà une norme définie dedans. Donc moi je dirais plutôt que c'est l'énoncé qui doit être concrétisé, soit dans un sens assez évident pour tout le monde. La norme dont tu vas dire qu'on écarte un principe, c'est qu'en fait le principe devait être explicité. Et puis, dans bien des cas, en effet, les énoncés sont à ce point ouverts qu'il faut de toute manière que quelqu'un le concrétise. Ça peut être des acteurs, les autorités législatives ou exécutives, et ça peut être le juge, et c'est souvent le juge, quand il y a un conflit, quand il y a un contentieux, quand l'affaire peut être portée devant une cour. Donc ça, l'idée, il y a plusieurs manières de mettre le curseur, mais le terme de concrétisation constitutionnelle, moi j'y crois beaucoup, c'est-à-dire que... Mais le problème, c'est qu'évidemment, c'est une auberge espagnole parce qu'on y met des choses très différentes. Ça tient dans le discours ultra-normativiste à la Otto Fersman, comme ça tient chez Friedrich Müller et sa théorie de structure du droit, et ça tient encore dans d'autres théories.
Ok. Oui, alors moi, pardonne-moi, Armel, je ne rebondis pas directement sur ce que tu dis. Je me contente de dire comment j'ai reçu ces deux papiers que j'ai trouvé passionnants. Je crois, pour contredire ce que je viens de dire, que l'expression que tu utilises, il y a toujours quelque chose comme une vérité du droit, me paraît très important. Ce que tu disais, Carlo, sur le fait que nous enseignons que le juge constitutionnel... applique la Constitution, la manière dont les juges se présentent eux-mêmes ou dont nous présentons le travail du juge correspond à un idéal ou à une idéologie, sans doute les deux, qui veut que le juge soit le gardien de la Constitution, que le droit soit neutre, séparé de la politique et supérieur à lui. Précisément parce qu'il y a une vérité du droit et que donc on peut prendre des décisions au nom de la vérité au lieu de les prendre, comme c'est le cas dans le domaine de la politique, à partir d'opinions partiales, des excès de la majorité, de la subjectivité des acteurs. Donc le juge est précisément légitime et tire sa légitimité du fait qu'il ne fait pas de politique, du fait qu'il manifeste la vérité du droit, et c'est ça qui le rend légitime. Le problème, évidemment, et ça je pense que c'est là que les articles de Guillaume et de Denis sont passionnants, c'est qu'il y a des écarts, et qui sont parfois des béances. En fait, le juge est co-constituant, ça on le sait depuis, je crois que c'est Michel Troppel qui avait lancé cette formule. Le juge fait de la politique, utilise des policiers arguments, il produit de la raison d'État. Il n'est pas du tout évident que quand il fait ce qu'il fait, ça soit plus démocratique, ça dépend beaucoup du sens du mot démocratie. Et voilà. Et alors moi j'ai une question, c'est quel est le sens de cette critique? Je crois que nous gagnerions à réfléchir à ça, c'est-à-dire est-ce que nous regrettons que les faits ne correspondent pas à l'idéal? Est-ce que nous souhaitons combler l'écart? Est-ce que nous souhaiterions que le juge soit plus en adéquation avec la conception de la légitimité qu'il produit lui-même? Autrement dit, est-ce qu'on voudrait qu'il soit plus cohérent avec ce qu'il veut être? Ou bien sommes-nous, et ça me paraît beaucoup plus intéressant, en train de sacrifier l'idéal? Ou bien sommes-nous en train de dire, cette idée du droit qui a une vérité au nom de laquelle on prend des décisions qui sont plus légitimes que les opinions partielles, subjectives de la politique, eh bien c'est de l'idéologie. En fait, ça ne se produit jamais et ça ne peut pas se produire. Regardez même les juges qui disent qu'ils le font, ne le font pas. Et franchissons le pas, considérons le juge comme un organe politique. Et donc par conséquent, comme il n'est pas élu, tout ça comme un organe oligarchique, ça c'est sans doute à peu près certain, et même peut-être comme l'inventeur d'un mode spécifique d'intervention politique, c'est-à-dire d'une forme de gouvernementalité qui lui est propre et qui est celle de faire de la politique par le droit. Alors si on franchit ce cap-là, c'est la question de la légitimité qui va se mettre à baisser. C'est-à-dire que l'argument facile qui consiste à dire « je suis légitime parce que je fais du droit et que le droit, il y a une vérité, là, n'étant plus disponible, la question de la légitimité, eh ben, elle est toujours pendante. Elle est toujours politique et donc elle est toujours soumise à la critique de la partialité des opinions, de la subjectivité, etc. Et là, on ne peut plus raisonner de la légitimité des organes judiciaires ou juridictionnels faisant de la politique autrement que politiquement, c'est-à-dire en trouvant qu'ils ont raison, qu'ils n'ont pas raison, que c'était bien, que c'était pas bien, que d'embrouiller la fureur. Et alors, voilà, moi, en lisant les deux articles, j'ai l'impression que c'est vers ça qu'on va. Et je dois dire, mais ça n'étonnera pas les gens qui sont sur cette table, je m'en réjouis.
Peut-être les deux auteurs. Guillaume ?
Juste pour rebondir sur ce que disait immédiatement Michael, en effet, c'est simplement à partir du moment où on admet que le juge constitutionnel, et puis tous les juges en général, ont un pouvoir, que la question de leur légitimité se pose. Si on croit aussi le logisme judiciaire, bah, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pouvoir, c'est le pouvoir nul, donc il n'y a aucune raison de s'interroger sur leur légitimité. Et c'est à partir de là qu'on va voir différents modes de légitimation dans le cadre d'une démocratie, parce qu'on prétend toujours qu'on vit en démocratie en dépit de l'admission en catimini du pouvoir du juge. Et ça sera peut-être plutôt la deuxième partie du débat, mais il va y avoir des modes de discussion qui vont dire bah, si c'est quand même démocratique parce que ceci, parce que cela, parce que machin, on réaménage, on a une nouvelle conception de la démocratie. Et puis d'autres qui vont dire de toute façon la démocratie, bah, c'est pas si top que ça, le gouvernement du monde. Il y a des trucs plus importants, les droits fondamentaux, la modération du pouvoir, je ne sais quoi. Et c'est très bien qu'il y ait un juge et on n'est plus en démocratie, mais finalement, tant mieux. C'est beaucoup mieux dans un régime modéré que dans une démocratie. Pour rebondir sur ce que disait Armel, la conclusion que tu tirais du papier de Denis, la Constitution en elle-même est inapplicable. Je pense que c'est toi qui disais.
J'adhérais à ça largement.
C'est une phrase qui a l'air de rien, mais je pense qu'en fait elle est extrêmement importante et que c'est précisément parce que la Constitution en elle-même est inapplicable, c'était ta formule, c'est précisément parce qu'on est rentré dans ce paradigme où la Constitution en elle-même est inapplicable qu'on a des juges constitutionnels. Avant, quand on était dans un paradigme, ou de manière contemporaine, je ne fais pas de chronologie exacte, mais quand on était dans un paradigme où la Constitution était un mécanisme, à la Madison, et ben, elle s'appliquait toute seule. Et les organes, de toute façon, étaient, par le mouvement des choses, conduits à appliquer la Constitution qui modérait les pouvoirs, qui, avec une séparation des pouvoirs horizontale, une séparation verticale, aboutissait à un gouvernement modéré. Et c'est à partir du moment où on a conçu la Constitution comme une norme obligatoire que, avec Marshall, on a été piégé et on s'est dit, eh ben, oui, la Constitution ne s'applique plus toute seule. Et maintenant, il va falloir des acteurs, des autorités spécifiques pour la mettre en œuvre. Sur la question, ce sera ma dernière remarque, sur la question, qu'est-ce que ça nous dit de la manière dont nous on fait du droit constitutionnel, enfin de la science du droit constitutionnel ou de la doctrine constitutionnaliste, le fait de croire ou pas croire à la vérité de ce que racontent les juges constitutionnels. J'ai du mal à croire que la majorité des lecteurs des décisions du Conseil constitutionnel ou des juridictions constitutionnelles en général, des avocats qui travaillent à écrire des QPC, des professeurs qui rédigent des consultations pour eux, des professeurs qui ensuite vont commenter les décisions, des juges qui renvoient des QPC au Conseil constitutionnel, ne sont pas au courant qu'il y a une marge de décision, qu'il y a une marge de manœuvre, qu'il y a une marge d'incertitude, qu'il y a un pouvoir du Conseil constitutionnel. Et la question, c'est pourquoi quand même tous, aussi intelligents, clairvoyants soient-ils, soyons-nous, on continue quand même à jouer le jeu, à rester dans ce jeu de langage dans lequel on dit il y a une vérité, il y a une interprétation de la Constitution, c'est celle que je propose dans ma consultation, c'est celle que je propose dans mon recours pour former une QPC, c'est celle que je propose pour envoyer la QPC, etc. Alors il y a plusieurs, il y a une explication élémentaire, c'est que si on commence à dire c'est du n'importe quoi, le Conseil constitutionnel décide comme il veut, et le Conseil d'État pareil, et les avocats font de la rhétorique, on leur demanderait de défendre une loi liberticide, ils le feraient avec le même talent que s'ils défendaient, mais c'est le cas, que s'ils défendaient la loi protectrice de la liberté. C'est tout simplement que si on se met à dire que tout le monde fait du n'importe quoi comme ça l'arrange, on casse notre joujou, on casse notre métier, on casse tout notre jeu argumentatif. On peut difficilement conseiller son client en lui disant « De toute façon, le juge fait n'importe quoi et vous avez envie de défendre ça, oui, moi je vous écris un recours, j'y crois pas une seconde. » Et ensuite, d'aller devant le juge en lui disant « De toute façon, tu décideras comme tu veux. Bon, moi j'ai une décision à te proposer, voilà, c'est ce truc-là, j'y crois pas non plus, mais ça m'arrangerait que ça soit toi que tu décides dans ce sens-là. » Le plan sur le plan de la rhétorique, sur le plan de la conviction, sur le plan de la mécanique du droit comme système de contrôle social, c'est pas comme ça que ça marche. Et pour faire nos commentaires de décision, enfin la majorité de la doctrine, a quand même besoin de l'idée d'une vérité du droit pour dire le Conseil constitutionnel a quand même mal décidé. C'est quand même fourvoyé parce que l'interprétation de la liberté d'association, c'est pas ça. La définition, donc Denis, tu prends cet exemple, et c'est très très parlant, la définition d'une peine ayant le caractère d'une punition, ça implique cette règle-là, et donc le juge constitutionnel a erré. Pour justifier qu'on produit des articles, pour justifier qu'on produit des enseignements, pour justifier qu'on produit des recours et des consultations auprès d'avocats, on a quand même besoin de cette espèce d'horizon de certitude, au moins on a besoin de l'affecter pour justifier notre propre discours. Et à partir du moment où on commence à nier cela, ou à y renoncer, ou à affecter visiblement, constamment, publiquement de ne plus y croire, on casse notre joujou. On peut le faire de manière partielle, mais il va bien falloir si on veut continuer à enseigner, si on veut continuer à consulter, si on veut continuer à écrire, si on veut continuer à critiquer le Conseil constitutionnel, à maintenir au moins partiellement, au moins localement, au moins tel ou tel article, ou telle activité, l'horizon de vérité. Et puis, l'autre coup, c'est que certains parmi nous pourraient très bien être tentés de dire si, c'est n'importe quoi, le juge constitutionnel fait n'importe quoi, les avocats font comme on leur demande, avec le talent qu'on leur sait, ils défendraient tout et n'importe quoi avec la même conviction et la même apparence de vérité. L'ennui, c'est qu'à ce moment-là, si on estime qu'il n'y a plus de vérité dans le droit, il faut trouver d'autres grilles explicatives du comportement du juge. Et ça, ça a évidemment un coût. En termes d'investissement intellectuel, il faut nous acclimater, il faut qu'on apprenne de nouvelles méthodes. Alors la sociologie, la psychologie, l'économie du droit, l'astrologie, je ne sais pas quoi, mais ça a un coût en termes de renoncement à des années de formation et un apprentissage complémentaire de nouvelles grilles de lecture qui seront à l'usage peut-être plus révélatrices ou plus riches d'enseignements ou plus riches de prédictions possibles de l'actualité du juge que le fait de croire à la vérité du juge.
Oui, je voulais juste rebondir un tout petit peu sur, sur quelque chose que vous disiez, enfin, bon, plus globalement d'ailleurs, et après je te cède la parole, Mickaël. Je ne sais pas si la question se pose en termes de est-ce qu'on y croit complètement ou est-ce qu'on y renonce complètement. Je pense que c'est plus compliqué que ça, parce qu'il me semble que la question qui nous est posée, là, mais il y aura aussi d'autres exemples, est une question qui est une question de notre relation à la fiction juridique. Et la fiction juridique, c'est... Traditionnellement, on dit... fiction juridique égale nous acceptons de faire comme si c'était vrai, mais nous savons pertinemment que c'est totalement faux. C'est comme ça qu'on définit les fictions. Bon. C'est plus, à mon sens, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, on, d'une part, on y croit quand même un peu. La preuve, quand on se laisse... Quand on se laisse avoir, j'allais dire, c'est le signe qu'il y a quand même, de la croyance dans cette, dans cette affaire-là. Et puis en plus, on a quand même envie d'y croire, et on a besoin d'y croire, comme tu disais très bien tout à l'heure. Et c'est là, je pense que voilà, le curseur est très difficile à placer, qu'on s'aperçoit qu'on le croyait à un endroit alors qu'en fait il est à un autre, etc. Et que par conséquent, me semble-t-il, la question ne se pose pas en termes de tutoriel. Mais, voilà.
Justement, pour rebondir sur ce que disait Guillaume, et pour aller dans ton sens, je ne suis pas sûr que ce soit un problème de y croire, pas y croire. D'abord parce qu'on peut ne pas y croire et jouer le jeu tout de même. Mm-hmm. C'est-à-dire, je ne crois pas que... Enfin, je suis même absolument certain que jouer au jeu du droit exige d'y croire. Je serais même plutôt enclin à penser qu'on joue mieux quand on ne croit pas.
Oui, c'est pour ça que d'affecter d'y croire.
Affecter d'y croire. Il me semble que ce qui est difficile, c'est la tension que et toi et Denis introduisez dans vos articles, qui est qu'au bout d'un moment, on finit par douter du jeu dont il est question. Parce qu'on nous dit c'est le jeu du droit, on nous dit la Constitution, alors appliquer la Constitution, puis tout d'un coup, on se rend compte qu'en fait, il y a une oligarchie de gens compétents, que en fait, c'est plus de la démocratie, qu'il n'est pas du tout certain que le grand nombre qui est supposé être souverain ait quoi que ce soit à dire sur ces... Et qu'en fait, il se pourrait bien que ce soit une affaire de la clique des juristes, comme dirait Bentham. Bon, je sais que c'est un auteur qui ne te déplaît pas. Et puis alors, il y a Denis qui arrive et qui nous dit, mais en fait, c'est peut-être une affaire de rationalisation de quelque chose qui n'est pas le droit, qui n'est pas la Constitution comme système des libertés, mais qui est quelque chose de plus sombre, de plus froid aussi, qui est la rationalisation de la raison d'État. Et ça, c'était écrit nulle part. Et en fait, si ça se trouve, on ne joue pas ce jeu-là du tout. Et donc, le gros problème, c'est que si c'était seulement on ne croit pas au jeu qu'on joue, ça irait. Le problème, c'est le doute qui pèse sur la nature du jeu. Et alors, pour rebondir sur pourquoi nous continuons à faire semblant de jouer un jeu dont on sait qu'il se pourrait bien que ça n'est pas le jeu que nous jouons, c'est peut-être aussi parce que nous en faisons partie. C'est au sens où nous aussi sommes des fonctionnaires de l'État. C'est-à-dire que si le jeu dont nous parlons est celui de la raison d'État, il se pourrait qu'on ait des intérêts sociologiques très forts et des intérêts idéologiques très forts à ce que en fait, derrière le jeu que nous sommes supposés jouer, d'autres jeux se jouent, et que, au fond, ça ne nous déplaise pas complètement. Je lisais il y a 3 jours un étonnant plaidoyer en faveur du Conseil d'État de la part d'un collègue qui me semblait, tout à fait sidérant d'amour.
Poujade,
Paris 5. C'est de l'amour. Et c'est de l'amour pour le Conseil d'État, pas comme gardien du droit. C'est de l'amour comme du Conseil d'État, comme l'État. C'est de l'amour de l'État.
L'amour du tour extérieur.
Pardon ? C'est l'amour du tour extérieur. Mais ça ne sera pas au... Voilà, donc j'ai l'impression que ça serait bien si on savait quel jeu on jouait. Mais la politisation, c'est ça justement qu'elle introduit. Ce qu'elle introduit, c'est le doute sur le jeu qu'on joue.
Pierre. Je sais pas, Denis, il faut peut-être ajouter quelque chose, parce qu'on a beaucoup parlé de son article. Hein, peut-être.
Bien, mais... Bon.
Moi, j'ai... Alors, je... Donc d'abord, je suis... c'est mon bizutage, là, parce que c'est la première fois que je viens ici, comme ça, sans filet. J'ai... j'ai consulté mon
astrologue.
Si, astrologue. Non, mon psychanalyste qui est dans cette salle d'ailleurs, je suis mauve, en lui demandant comment ils font, qu'est-ce qu'il faut que je dise, quelle langue je parle. Enfin, ouais. Alors, donc j'ai beaucoup de mal. J'ai suivi ce qu'on m'a dit. Il faut rien préparer. Alors, j'ai rien préparé. Donc, moi, je ne suis pas tout à fait... je ne suis pas du tout en désaccord avec ce que vous dites sur le fond, mais il y a quand même une chose qui me froisse un peu, c'est cette idée qu'on y croit. Peut-être je suis très naïf ou terriblement arrogant, mais j'y crois pas du tout. Enfin, je ne crois pas du tout à ce que je lis. D'ailleurs, je ne comprends rien. Moi, quand je lis des décisions du Conseil comme ça, la première chose que je fais, c'est que... Généralement, quand je ne peux pas appeler mon psychanalyste, je m'y reprends à trois fois. J'ai toujours eu un mal fou à comprendre les décisions du Conseil constitutionnel, parce que je trouve que c'est des choses qui glissent. Et alors, je me suis arraché les cheveux sur la décision génocide arménien, et j'ai eu envie de faire un article que je n'ai jamais réussi à faire, parce que fondamentalement, je n'ai jamais réussi à comprendre la décision. Et donc, j'y crois vraiment pas du tout, mais je crois pas plus au Conseil constitutionnel qu'au Conseil d'État. Je crois pas du tout, je veux dire que, voilà, ils font pas n'importe quoi, parce qu'effectivement, ils ne nous racontent pas la vie de leur femme, et je dois d'ailleurs... Je ne sais pas si ce mot est prononçable ici, mais... enfin bref. Toujours est-il que... Voilà, ils ne nous racontent pas leur vie personnelle, ils vont chercher des objets qui sont des policy arguments ou des sources prétendument identifiées. Mais personnellement, je n'ai pas de problème avec l'idée que la conscience ne s'applique pas, mais elle ne s'applique pas plus qu'un règlement ou qu'une loi ou que n'importe quel texte juridique. Un texte juridique ne s'applique pas. Alors évidemment, on dit qu'il s'applique parce qu'on ne sait pas très bien faire autrement, mais... si s'appliquer c'est s'appliquer de manière déductive et systématique, et donc si appliquer ça veut dire tirer une norme individuelle d'une norme générale de manière mécanique, bon, ça suffit. C'est-à-dire que ça n'a jamais été comme ça, ça n'est jamais comme ça. Alors après, ça n'est jamais comme ça pour des tas de raisons, c'est-à-dire d'abord soit parce que la norme est tellement générale que... Soit parce que, en effet, on sait toujours que l'histoire aurait pu être autrement, et de même que, encore une fois, Napoléon aurait pu avoir des besoins pressants qui ont fait qu'il n'aurait pas gagné à tel endroit, le juge aurait pu envisager tel autre argument. Et après, il ne le fait pas. Bon. Alors, pourquoi il ne le fait pas? Il y a ceux qui vont chercher du côté de la psychologie, ceux qui vont chercher du côté de la sociologie, ceux qui vont chercher du côté de l'idiosyncrasie, ceux qui vont chercher du côté des contraintes, et toutes ces explications... se valent plus ou moins, sont plus ou moins pertinentes ou séduisantes. Je crois qu'au-delà de la question du jeu, c'est une question de programme. C'est-à-dire, pardonnez-moi de passer un peu du coq à l'âne, mais en écoutant Guillaume et Michael, je me disais que nous, on n'est pas des stoïciens à la Paul Venn, on n'est pas des machines à laver, effectivement, avec un seul programme. On a plusieurs programmes, mais comme des tas de gens, exactement comme... le père de famille qui sera très autoritaire avec ses enfants et en les menaçant de tous les des pires mots si jamais il touche à la drogue, mais qui ira fumer son pétard tout seul le soir dans son lit, et ou qui le partagera d'ailleurs avec son épouse, peu importe. Mais nous sommes capables d'enseigner à la fois qu'en effet, ben voilà, parce que c'est plus commode, que effectivement on applique la Constitution, mais sans y croire vraiment. D'ailleurs, en fait, on y croit quand même assez peu et on l'explique pas non plus comme ça. Je ne crois pas que personne ici n'ait jamais envisagé de ne pas évoquer les différentes possibilités qui s'offraient à tel juge, de ne pas chercher à trouver une sorte d'explication, pas au sens causal ou scientifique, mais nomologique, mais une sorte de, voilà, de rationalisation d'une décision qui soit la plus cohérente à ses yeux, et donc il est aussi capable de choisir un des programmes parmi ceux qui s'offrent à lui. Et encore une fois, la croyance que l'on a dans les histoires qu'on nous raconte dans les décisions est extrêmement faible. Nous savons très bien, et nous sommes d'ailleurs capables aussi de dire, non pas que le juge se trompe, enfin je ne crois pas qu'on puisse dire que le juge se trompe, ou qu'on n'ait jamais dit que le juge se trompait, mais On est d'accord pour dire qu'encore une fois, il y a eu un choix de cette solution, et souvent d'ailleurs on ne sait pas pourquoi ils ont choisi cette solution. Mais on ne le sait pas parce qu'on n'a pas non plus tout le dossier. Là, je reviens sur l'idée des policy arguments. Il y a une chose qui manque peut-être un peu dans l'article de Denis, c'est le fait que la décision, c'est un ensemble de discours qui est beaucoup plus vaste que la décision du Conseil. C'est des dossiers, c'est des expertises, maintenant, ce sont des amicus curiae, c'est des tas de choses. D'ailleurs, tout en lisant l'article de Denis, je revenais sur cette fameuse décision génocide. C'est assez amusant de voir que le Conseil constitutionnel a fait ses courses dans les arguments développés par l'Association française de droit constitutionnel ou par d'autres. Ils ont choisi ce qui leur paraissait le plus efficace. Moi, je crois que cette décision, outre qu'elle a un côté complètement incompréhensible, en tout cas pour la partie d'obiter dictum, il reste qu'il y a une forme de laconisme qui est typiquement française, je pense, et ce laconisme est à la fois justifié culturellement ou s'explique pour des raisons culturelles, et en même temps est effectivement une forme d'objectif qu'on peut facilement viser, parce qu'il y a une très grande efficacité du laconisme. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu dans l'article de Denis, outre l'aspect que tu relevais, c'était la réflexion sur la question de motivation, l'action de la motivation. Moi, je l'ai beaucoup plus, d'ailleurs, interprété comme ça. Enfin, c'est ça que j'ai privilégié, c'est cet aspect-là. L'idée d'hyperformalisme, j'ai trouvé l'hypothèse d'hyperformalisme du Conseil constitutionnel, l'idée de motivation faible extrêmement séduisante. Et séduisante parce qu'effectivement, elle montre aussi, et là je reviens aussi au texte de Guillaume, elle montre la singularité du Conseil constitutionnel dans l'univers des cours constitutionnels aujourd'hui, à savoir qu'on a encore quelqu'un qui croit au laconisme, qui croit à une forme d'efficacité de l'argumentation juridique, alors que la mode est aujourd'hui à faire des décisions très longues, à justifier avec des tas d'arguments empruntés à des tas de sources, enfin bref, et là on a un Conseil constitutionnel qui est encore tout une sorte de... Enfin j'ai un mot vulgaire qui me vient, mais bon, voilà, une sorte d'institution encore vraiment très très jeune, qui a l'air de ne pas avoir tout à fait assumé la mode de la discursivité, et qui... d'une certaine manière aussi résiste à cette discursivité-là pour avoir une forme d'argumentation très efficace. Très efficace avec une efficacité, en fait, là aussi, à laquelle je ne crois pas plus que ça. C'est-à-dire efficace parce qu'il trouve l'argument qui permet de ne pas en dire plus. C'est tout. C'est une efficacité institutionnelle. Ça ne veut pas dire qu'elle est mesurable ou qu'elle est convaincante elle-même. Mais je crois qu'elle correspond à l'idée qu'ils se font de leur fonction. Bon, je m'arrête là parce que je...
Il y a plusieurs demandes d'intervention. Je voulais juste un petit mot sur un des éléments de ce que tu as dit. Tu as parlé de pluralité des programmes. Mmh. Je trouve ça intéressant comme idée. Alors, on a bien compris ce que ça pouvait signifier en termes de choses à fumer de manière plus ou moins discrète. Concrètement, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots ce que ça veut dire
Ça veut dire que le professeur de droit qui a besoin d'argent consultera et dira ce qu'on lui demande de dire, que ça ne l'empêchera absolument pas de trouver qu'il a aussi besoin de séduire ses étudiants et de faire du post-critique s'il le souhaite. D'accord. Encore une fois, ça c'est de l'idiosyncrasie, effectivement. Je ne crois pas que... Moi, je n'ai pas besoin d'une explication plus compliquée pour ça.
Et il y a des machines à laver qui ont plusieurs programmes simultanés.
Donc... Voilà, c'est vrai. Mais c'est vrai, je suis d'accord. Mais comme j'utilise le minimum, c'est mon côté écolo.
Alors, Olivier, vous voulez prendre la parole.
Merci de m'avoir invité. Merci pour les deux auteurs des deux beaux articles. J'en avais lu un, celui de Denis, et j'ai lu celui de Guillaume. Alors, je voudrais peut-être partir d'une citation de... Pour Guillaume, je vous poserai deux questions. Il y en a une qui va d'ailleurs être en relation avec l'article de Denis. La première question, c'est sur... Tu fais allusion au livre du Brésilien Neves, et tu dis, en fait, un thème qui est celui sur le transconstitutionnalisme, et tu expliques... la France est un peu à l'écart de ces nouveaux débats et que, en fait, finalement, on croit arriver à une révolution, on arrive un peu trop tard parce qu'aujourd'hui, on ne pense plus en termes de constitution nationale, mais plutôt en termes de constitutionnalisme global. Et tu invoques notamment le droit européen et puis aussi le droit de certaines organisations internationales. Donc la question que je voulais quand même te poser, c'est est-ce que tu crois vraiment qu'on peut parler de justice constitutionnelle? Parce que le thème de débat, c'est légitimité et justice constitutionnelle. Est-ce que tu crois ou est-ce que tu penses plus exactement que dans tout ce nouveau courant de doctrine sur le transconstitutionnalisme, est-ce que tu crois qu'on peut désormais parler de justice constitutionnelle pour toutes ces juridictions du type de la Convention européenne des droits de l'homme? Est-ce que tu crois à ce discours, voilà? Et est-ce que tu crois aussi, là j'ai vraiment une croyance, que les constitutionnalistes, les constitutions nationales sont finies, voilà. Donc c'est évidemment un propos très réactionnaire que je tiens, parce que je ne suis pas convaincu. Voilà, je dis qu'elles sont, menacées, mais elles ne sont pas complètement moribondes. Donc est-ce que tu pourrais être davantage justifier cette insertion à partir de la lecture du livre de Neves? Il n'y en a pas d'autres, il y en a d'autres, il y a Turner, il y a tout un courant qui est en train de dire que les constitutions nationales sont dépassées. Et puis la deuxième remarque, c'est sur, ça me permet de faire le lien avec l'article de Denis, c'est à la fin de ton article, tu dis, je cite, puisque certains n'ont pas lu l'article, la révolution disciplinaire est encore loin, et t'ajoutes, de plus, l'approfondissement de la dimension technique du savoir constitutionnaliste doit laisser toute leur place à d'autres conceptions de la matière. Tu fais allusion à Ius Politicum, une philosophie politique non détachée de la pratique juridique, l'histoire du droit constitutionnel, l'étude des modes d'exercice et de légitimation du pouvoir, l'analyse du consentement rationnel à l'obéissance, ne sont pas invalidées par le perfectionnement de la justice constitutionnelle, mais deviennent d'autant plus indispensables. Fin de citation. D'accord, je suis même enthousiaste en disant cette page, je suis entièrement d'accord, mais est-ce qu'on pourrait dire ça, si on applique cette phrase, est-ce qu'on peut l'appliquer, si c'est une phrase, est-ce qu'on peut appliquer ça à la jurisprudence du Conseil constitutionnel? C'est-à-dire qu'on peut dire que, de certaine manière, la jurisprudence du Conseil constitutionnel témoigne d'un progrès technique, progrès encore révélé par la QPC, mais est-ce que, et c'est, je refais le lien maintenant avec l'article de Denis, quand on lit son article, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit finalement que le Conseil constitutionnel a une jurisprudence faiblement motivée, et tu parles de motivation faible, et tu dis qu'en réalité, de manière subreptice, il introduit des principes non justifiés que tu qualifies de raison d'État. Ça veut bien dire, d'une certaine manière, tout ce qui est philosophie politique, tout ce qui est pensée politique, tout ce qui est extra-constitutionnel est largement, non pas écarté, mais n'est pas discuté. C'est-à-dire que c'est asséné. Et donc c'est un constitutionnalisme qui n'est pas vraiment libéral, et donc ça me permet d'avancer un point qui me paraît important dans la discussion qui n'a pas été évoquée jusqu'à maintenant, parce qu'on est resté à certaines hauteurs de vue, et je vais malheureusement ramener mes considérations à des choses beaucoup plus terre à terre. C'est sur, si on parle de la légitimité du juge, il faut parler de la composition des juges, des conseillers, et donc savoir qui sont nos juges, qui fait la jurisprudence du conseil. Et là j'aurais un petit désaccord, c'est le seul avec Denis, mais je m'autorise à aucun seul désaccord avec mon directeur adjoint, car je suis prudent, c'est sur ce qu'il dit sur le Conseil constitutionnel, lorsqu'il dit il y a une séparation très nette entre les conseillers, donc c'est page 40 de son article, il dit un clivage très strict s'opère en principe, il y a une évolution, au sein du Conseil constitutionnel entre les conseillers, ayant seule vocation à participer à la décision, et les autres membres de l'institution qui ne peuvent y être associés. Et il cite en note M. Schrammeck, ancien secrétaire général, qui dit « Le secrétaire général n'a aucune autorité pour exprimer une position du Conseil constitutionnel. » Donc je voulais savoir, je pose une question assez brutale à Denis, crois-tu à ces phrases? Autrement dit, la jurisprudence du Conseil constitutionnel, on le sait, elle est largement faite par le service juridique, d'autant plus que la QPC a accéléré énormément. Et moi qui ai eu l'occasion de commenter une décision que vous connaissez sur la loi liberté et responsabilité des universités, je peux attester qu'effectivement, cette jurisprudence est quand même faite de manière très, très bizarre, ça veut dire. Voilà. Donc,
alors, Denis, et d'abord, et peut-être ensuite Guillaume, puisque tu veux également poser une question.
C'est embêtant, ça montre ta question. Le problème des limites de l'art d'écrire, c'est quand on est quand on écrit au premier degré.
J'ai bien compris là.
Non, je ne crois pas une seconde que les 9 membres du Conseil constitutionnel écrivent les décisions. Je pense que le secrétaire général fait tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que.
Mais c'est un fait.
C'est pour ça que je cite ceux qui disent qu'ils font le contraire.
Alors je peux juste ajouter, parce que je suis allé trop vite. Si je dis ça, évidemment, c'est que dans un article, nous sommes d'accord, ça fait un deuxième, c'est que, en fait, c'est pas tellement les policy arguments qui sont importants, c'est le fait que la jurisprudence du Conseil constitutionnel est une sorte de prolongation de la jurisprudence du Conseil d'État. C'est toujours l'idée qu'en fait, quand on veut comprendre le Conseil constitutionnel, il faut d'abord partir du Conseil d'État et qu'il pourra comparer, si nous avons des pistes, mais nous n'avons pas la véritable raison.
Oui, mais au Conseil d'État, ça marche. Oui, dans l'article. Le dispositif Conseil d'État fait que. Ça a marché, ça a eu marché.
Ça a eu marché.
Le dispositif Conseil d'État a fonctionné, a produit une sorte de doctrine intéressante et significative, une conception de l'État intéressante et significative. Et on transpose ça, on fait passer ça à l'échelle, enfin, au niveau constitutionnel, et par une sorte de miracle ou de contre-miracle, ça ne marche plus. Et c'est ça le problème de la France aujourd'hui, c'est quand on a voulu constitutionnaliser le dispositif de la raison d'État et de l'État administratif, la constitutionnalisation a montré la nudité du prince. Et au fond, moi je suis comme Pierre Brunet, on croit tous un peu à tout, évidemment, mais je fais de mon mieux pour ne pas y croire. J'ai une grosse différence avec lui, c'est que je ne fume pas de joint.
Je n'ai pas dit que c'était moi.
Ça donne mal à la tête. mais voilà, donc au fond, c'est intéressant cette question de la raison pour laquelle. On prend des gens tous très brillants, etc. On les déplace d'une cloison du Palais Royal à la rue de Montpensier, et le dispositif dogmatique échoue, parce que c'est quand même un gros échec du Conseil constitutionnel.
Denis, pardon, excuse-moi, je suis désolé de t'interrompre, mais en fait, non, on n'a pas vraiment fait ça. On a... Non, tu as raison sur le fond. Il y a effectivement une espèce de... le Conseil constitutionnel a été très largement une sorte de cellule créée à partir d'une souche qui était le Conseil d'État. Ça, d'accord. Mais il y a une chose qu'on n'a pas faite du tout. On n'a pas du tout introduit le commissaire du gouvernement, la procédure d'instruction, etc. Donc,
j'en parle dans l'article. Mais c'est mon avis,
ça change tout. C'est,
ça change tout, je suis d'accord.
On a fait effectivement qu'on a prélevé... certaines cellules qu'on a implantées à un autre endroit, mais
ça fait beaucoup plus subtilement. C'est juste peut-être, le fait que le secrétaire général est devenu de façon coutumière un membre du Conseil d'État,
oui,
qui a tout changé. Donc c'est les gens de 58 n'avaient aucune idée.
Mais Olivier, ouais, il est devenu ça sans même avoir autour de lui l'armada de ce que c'est qu'un dossier d'instruction au Conseil d'État. Il n'y a pas de rapporteur, il n'y a, pas de commission, il n'y a pas de réviseur, il n'y a rien, il y a juste un rôle considérable aujourd'hui avec un retentissement politique dont effectivement on n'a jamais vraiment pris compte que c'était plus possible avec la structure qu'on avait, puisque la structure qu'on avait c'était juste... coquille dans laquelle on mettait des gens pour leur faire plaisir, enfin pour les remercier. Donc c'est, effectivement, la vraie question est celle de la composition, pardon.
Alors, pardonnez-moi, moi je repose ma question, c'est qu'est-ce qu'on veut alors? On voudrait un Conseil constitutionnel qui marche, parce qu'en fait ce serait un vrai Conseil d'État avec un super rapporteur, etc. De quoi parle-t-on? C'est-à-dire, on parle de la nécessité de perfectionner le Conseil constitutionnel et de le rendre... aussi parfait que le FU ou l'UTT ou etc. le Conseil d'État, où on parle de quelque chose de plus compliqué, d'un rapport plus structurellement contradictoire entre le fait que parce que c'est de la Constitution, donc c'est de la politique, ça marche pas. Et c'est, ça, enfin, je... On est en train de changer d'idéal ou on est en train de constater qu'il faudrait encore faire un effort pour pouvoir...
Non, on dit simplement que le déplacement d'un dispositif institutionnel, d'une conception de l'État et d'un certain nombre de manières de procéder est dysfonctionnel. Moi, je ne dis pas qu'il faudrait faire un super conseil d'État ou que ça pourrait marcher. Le français a encore un effort pour être...
Il faudrait vraiment des conseillers d'État.
Non, il y a une contradiction entre ce que est censé faire désormais le constitutionnel dans les quelques PC, une contradiction entre ce qu'il est censé faire et justement la composition et le fonctionnement de ce conseil qui sont complètement à l'encontre de ce qui devrait être si on était conséquent.
Non, c'est pas tout à fait comme ça que je le dis. Moi, je trouve beaucoup plus radical que ça, en fait.
Oui, mais moi, je vais, pour continuer ce qu'a dit Pierre, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, ça m'est complètement égal. Complètement égal, je m'en fous éperdument. J'ai même quand ça fonctionne pas, c'est plus marrant. Parce qu'on soit parfaitement clair, c'est-à-dire moi, il y a un truc qui me dérange dans l'attitude du contentieux constitutionnel en général, je veux dire, dans le contentieux constitutionnel comme discipline à laquelle j'essaie de ne pas participer avec un certain succès, je me reconnais, qui me sera reconnu, c'est que il y a un parti pris de la rationalité intégrale. Le contentieux constitutionnel, c'est la science de la rationalité intégrale. Du propos, du discours du juge constitutionnel. Je pense pas, d'un point c'est tout, je pense qu'il n'y a pas de rationalité intégrale, je ne cherche pas à la renforcer,
ne cherche pas non plus à l'affaiblir. Il y a des éléments, il y a des briques de rationalité, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qu'on peut dire, qu'on peut faire sur les autres, etc. Il ne faut pas non plus dire ça, il ne faut pas non plus s'amuser à ne plus avoir raccourci sur les choses, même si c'est bon. Mais je pense que ce parti pris de la rationalité intégrale est fautif pour l'universitaire et peut-être un petit peu dangereux pour l'État, mais après tout, ça c'est pas mal à faire.
Guillaume devait intervenir depuis déjà pas mal de temps.
Alors pour répondre aux questions d'Olivier, est-ce que j'y crois au constitutionnalisme global et à tout le discours de constitution internationale, sociétale et tout ça? Non, mais enfin, peu importe à vrai dire. Enfin, de ce point de vue-là, je suis complètement agnostique. Ce que je voulais dire dans le papier, c'est que aujourd'hui, le cœur du débat international, c'est plus les constitutions nationales. Et alors, c'est pas pour ça que c'est bien ou que c'est moins bien, et que les constitutions nationales soient mortes, je crois pas non plus, et que la décision de la Cour constitutionnelle tchèque de fin janvier me conduit à dire que non, que la décision du tribunal constitutionnel polonais de décembre me conduit à dire que non, d'autant plus. Mais, non, ce que je voulais dire, bon, il y a une part de... Je me suis quand même tapé le livre de Neves en portugais. J'avais envie quand même de rentabiliser.
Voilà. On sent le bentamisme.
En le signalant.
Faut que ça rende.
Je trouve que j'ai quand même lu aussi énormément de littérature plus ou moins filandreuse de constitutionnalisme global qui est assez médiocre. Or, Neves, son bouquin est vraiment intéressant et vraiment le plus intéressant de cette littérature un peu grasse et crasse. Et donc j'avais envie de faire connaître un peu ce bouquin-là, qui est vraiment un outil intéressant pour penser ça. Il y avait aussi le cœur du papier, et je le dis à la fin, là, sur le fait de transposer le vocabulaire constitutionnaliste à des niveaux un peu farfelus, de plus en plus farfelus, et pas très crédibles. Par contre, ce qui est important, c'est que ça existe. C'est qu'il y a des dizaines de colloques de par le monde qui se tiennent sur ce thème-là, c'est qu'il y a des dizaines de bouquins qui sortent sur ce thème-là, c'est qu'il y a une nouvelle revue chez Cambridge qui est Global Constitutionalism et qui parle du constitutionnalisme partout sauf dans l'État. Donc il y a quand même un train que la doctrine francophone française est en train de rater, celui du constitutionnalisme global. Alors c'est bien, c'est pas bien de rater ce train-là, peu importe. Ce que je voulais aussi dire, c'est que ça existe, que on est forcément en France, dans l'ordre juridique français, pris dans cette tendance d'entrecroisement des normativités européennes, nationales, transnationales, etc. Et que de toute façon, un jour, on aura forcément, nous, juristes français, besoin des outils qui sont mobilisés par ceux qui travaillent dans le cadre du constitutionnalisme global. Et le risque de la QPC, c'était de conduire à entretenir la doctrine française, qui avait quadrillé tous les articles de la Constitution avec Favoreux, qui avait quand même bien épuisé sa matière dans le contentieux a priori, qui maintenant va avoir le contentieux a posteriori pour exercer sa méthode, qui est quand même bien, bien ancrée et bien, bien huilée, et qu'en entretenant ce mouvement, on allait la dispenser d'essayer de s'intéresser à d'autres trucs qui sont quand même très actuels aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je parlais de ça. Ensuite, j'y crois pas plus que ça. Par contre, le fait qu'on emploie le terme constitution dans ces endroits-là, le fait que ce soit nouveau, le fait que ce ne soit pas innocent de la part des activistes, de la part des organisations internationales elles-mêmes, de la part des commentateurs, conduit à s'interroger sur les raisons qui y poussent. Alors pour certains, ça solidifie les structures de pouvoir dans le cadre de l'OMC, dans le cadre de l'OMS, etc., etc. Ça les soustrait au débat politique et donc c'est dans des stratégies hégémoniques. Pour d'autres, au contraire, appliquer le langage du constitutionnalisme, ça force à démocratiser des institutions pas assez démocratiques comme l'Union européenne. Donc les deux visions s'opposent. Mais ce qui devient intéressant, c'est d'élucider quels sont les buts, les fins auxquelles est employé le langage du constitutionnalisme dans ces contextes-là. Et est-ce que c'est applicable, tout ce que je dis, avec un copinage pour Nous Politicum que j'assume sans...
Je n'ai pas relevé comme
ça. Non, mais j'ai aucun scrupule à le faire.
Que tu dis très bien.
Et Thomas Pierre qui est obligé de voir sa psychologie.
Ouais, c'est ça. Ou tout de suite.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer chez Villene?
Est-ce qu'on peut l'appliquer au Conseil constitutionnel? Oui, pourquoi? Oui, bien sûr. Je ne vois pas pourquoi. On ne pourrait pas. Ce que fait Denis, ça me paraît relever de l'histoire conceptuelle, discursive, de la construction de sa propre rationalité par par le droit constitutionnel au jurisprudentiel, de l'étude des modes de légitimation du Conseil constitutionnel. Concernant l'analyse du consentement rationnel à l'obéissance, je ne sais pas si un jour le Conseil constitue rend une décision qui dit je ne sais pas qu'une directive européenne transposée quelconque ne viole pas l'identité constitutionnelle française, alors qu'une partie de la population française trouve que ça viole l'identité constitutionnelle française et que ça suscite un mouvement, un printemps français, je ne sais pas comment on l'appellerait, de rébellion, de révolte. Oui, ça me semble faire partie de l'objet du droit constitutionnel un peu rénové, enfin qui ne se limite pas au contentieux, mais qui au contraire prend appui sur le contentieux pour étendre sa réflexion.
Armel souhaitait intervenir. Je fais encore un tout petit peu semblant d'avoir un quelconque rôle dans l'attribution de ma parole, mais
c'est pour ça qu'on t'a désigné. Non, on pourrait se mettre d'accord sur le tour de table précédent pour se dire que credo quia absurdum, on peut croire bien que ce soit absurde ou parce que c'est absurde et qu'en réalité, tout ce système, on n'a pas vraiment à y croire, mais on joue à y croire aussi parce qu'on. On est amené à discuter de choses intéressantes. Alors pour revenir un peu sur la problématique générale du séminaire, il me semble que, d'une part, un constat, c'est que la France découvre tardivement des problèmes qui sont posés beaucoup plus tôt dans d'autres pays. Après tout, toute la discussion américaine sur le juge, sur sa légitimité, sur la façon dont il statue, ce qu'il a mangé au petit déjeuner, est-ce que ça a une influence sur ses décisions, tout ça, c'est une histoire très ancienne. Dans les pays qui ont une cour fonctionnelle ou des juges qui exercent un contrôle de constitutionnalité des lois depuis longtemps, ça a été discuté. En France, on a beaucoup de retard. Et là, on voit des constitutionnalistes découvrir avec émerveillement maintenant une jurisprudence applicable qui a pris sur les contentieux ordinaires. Et voilà. Et donc, dans le pays, ça s'est fait depuis des décennies. En revanche, il y a une chose où là, le cas français est assez caricatural. En fait, pour ça, l'exception française, Guillaume l'a dit, elle existe en cette matière-là. Et Denis l'a montré à travers des exemples assez concrets, à savoir qu'on est dans le degré le plus faible de l'argumentation, puisqu'au fond c'est ça, motivation, argumentation. Je pense que si on fait un pas, je ne sais pas si on y arrivera aujourd'hui ou dans les temps, de risquer le précipice et donc de faire comme si on admettait un nouveau paradigme que la vérité n'existe plus. Alors, je ne sais pas si Michael disait, ça ne me fait pas peur de tenter ce monde-là. Moi je voudrais bien, ça me fait un peu peur quand même, mais je sauterai avec toi dans le vide s'il le faut, non sans mettre une idée à parachute. En tous les cas, je pense que en liaison avec la question démocratique, puisqu'au fond c'est du gouvernement modéré, enfin une forme de démocratie, donc la question de l'argumentation elle est centrale, et bien entendu c'est normal, Pierre, que tu ne comprennes rien aux décisions du Conseil, puisqu'il ne dit rien dans tellement de décisions, il ne dit rien. Il dit c'est comme ça, et il n'y a vraiment pas d'explication. Donc c'est une chose quand même, quelle que soit la foi qu'on ait ou pas dans la vérité du droit, ou dans le caractère bon ou mauvais de la justice constitutionnelle, c'est littéralement scandaleux, en fait, qu'il y ait à ce niveau-là une instance qui donne une décision qui va être une décision qui vaudra jusqu'à ce qu'éventuellement le pouvoir de révision éventuellement réagisse, mais ce n'est pas praticable au jour le jour. C'est scandaleux qu'il y ait aussi peu d'argumentation. Quel serait le modèle inverse? Le modèle inverse, ce serait d'argumenter beaucoup, à défaut que ce soit plus vrai, ce sera ni plus vrai ni plus faux, mais ce sera une forme de participation démocratique, si on peut dire ça comme ça, de mettre en balance des arguments. Le juge américain le fait magnifiquement. Alors, ne pas approuver ceci ou cela, mais il y a quelque chose qui rend utile, je crois, l'instruction de la Cour suprême dans bien des cas, c'est parce qu'on a la mise sur la table par des gens très savants et très qui ont lu beaucoup de choses, qui se documentent beaucoup de problèmes de société ou autres pour analyser, jouer à analyser la constitutionnalité des lois ordinaires. Je crois que c'est la question qui est décisive. Un autre modèle serait un peu ce que font les Allemands. Alors tantôt, ce sont des policiers argumentent bien cachés, mais à la différence du Conseil constitutionnel français, la Cour de Karlsruhe, elle met plutôt 200 pages pour les cacher. Ça fait un peu plus sérieux. Je trouve que c'est lourd à porter, c'est fatigant à lire. Mais tout de même, plus sérieusement, il y a une chose qu'a su faire la Cour de Karlsruhe. Alors, je ne sais pas si c'est une très bonne chose à vrai dire, mais enfin, je le rappelle tout de même, c'est qu'elle a construit une dogmatique jurisprudentielle immense. C'est la grande fierté des Allemands depuis 50 ans, la dogmatique des droits fondamentaux. outre les droits fondamentaux, il y a aussi toute une manière de raisonner pour résoudre un vulgaire cas de litige entre organes sur la dissolution. Il faut, je ne sais plus combien de dizaines de pages pour disséquer. Il y a une apparence de rationalité, de construction juridique qui fait la fierté des juristes professionnels, qui fait la gloire des publicistes et des professeurs de droit allemand. Alors ça, c'est sûr qu'ils ne vont pas vouloir y renoncer de sitôt, bien entendu. Ça a de très mauvais côté, c'est que ça perpétue tout de même sous l'apparence de cette technicité et de cette presque logorée de formule le fait qu'on ne peut pas dire oui mais c'est pas sérieux ce que vous faites, c'est dit, non bien sûr, là, mais là ça rapproche de la, enfin, ça pose une question de culture. En Allemagne, la figure du professeur de droit, la révérence pour les juridictions, tout ça c'est et la place des juridictions dans les débats politiques ou dans les conflits politiques, elle remonte à très très loin. En France, on n'a pas la même tradition, bien entendu. On verra peut-être dans la deuxième partie, c'est si on a des solutions alternatives, comme Carlos nous y a un peu invité. On pourra évoquer peut-être la question aussi des opinions dissidentes. C'est une question qui me plaît assez. Mais bien entendu, pour en parler, il faudrait qu'il y ait déjà des gens, je pense, plutôt des professionnels du droit. Car vous imaginez bien qu'une opinion dissidente de certains membres du Conseil constitutionnel, on peut parler des membres qui sont morts, ce sera moins méchant, mais... une opinion dissidente de... Oui, c'était pas le pire, hein, certainement, mais enfin, ça aurait sans doute pas manqué de piquant. Vous remarquerez que dans la commission Balladur, il y a eu trois opinions minoritaires, c'était comme par hasard les trois hommes politiques qui voulaient se démarquer des conclusions générales du rapport. Bon, ben, je pense que ça ferait la même chose si aujourd'hui on permettait aux membres du Conseil d'avoir des opinions dissidentes. Donc c'est pour réintroduire un peu la question qu'est-ce qu'on peut dire, même si nous sommes tous des sceptiques ou des agnostiques sur cette question de la vérité du droit, mais qu'il faut tout de même balayer tout ça de la table, c'est de qu'est-ce qu'on peut mettre en avant pour discuter utilement de la question de la légitimité du juge constitutionnel dans une démocratie libérale, sachant que nous ne sommes pas donc trop naïfs, et qu'en même temps, si on peut approuver qu'il y ait une cour constitutionnelle, c'est parce qu'elle apporte un plus dans une certaine vision de la démocratie. Et donc la question, même si c'est un peu un artifice, de l'argumentation, par exemple, et des opinions minoritaires, c'est, à mon avis, un élément qu'il faut prendre en considération, même pour les sceptiques.
Bon, alors Mickaël insiste lourdement pour transgresser l'ordre de passage et nous jure que son intervention sera brève, alors on va vérifier si c'est vrai.
Je pense que si on franchit le pas et si on accepte au fond qu'il n'y a pas de vérité du droit et qu'on traite ces questions comme des questions politiques, on va se retrouver avec le même problème à un autre niveau. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une vérité du politique. Je ne suis pas sûr qu'on fasse de la politique au nom de la vérité. Certains le font, mais justement, c'est une question contestée. Il n'y a pas que la vérité en politique qui puisse être au fondement des décisions, des actions politiques. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des manières plus ou moins solides, sérieuses, d'essayer de convaincre quand on en fait. Et donc, moi, effectivement, c'est dans cette direction-là que ça irait. Ça ne dérangerait pas que le Conseil constitutionnel me dise harcèlement sexuel, on trouve que c'est pas très important, il n'y a pas beaucoup de cas, puis en plus, ces questions-là ne nous intéressent pas beaucoup, on en a profité pour... dire ce qu'on pensait de la manière dont le législateur rédigeait les lois, c'était une bonne occasion. On aurait pu discuter de ça, ça ne poserait pas trop de problèmes. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on franchit ce cap-là, ce n'est pas sûr que pour avoir un débat politique de bonne tenue, ce genre de décision soit les mieux prises par des juges. Et donc très vite, la question qui va se poser, c'est est-ce que ces décisions-là doivent être prises par ces neufs-là? Ou est-ce qu'on préférerait d'autres organes politiques?
Mickaël, ça me donnera un excellent prétexte pour t'interrompre aussitôt, parce que ça, c'est l'objet de la deuxième session. Denis? Je crois que c'est toi, Denis, qui disais, parce que Armel parlait de différents modèles, il me semble que c'est toi qui disais que, dans le cas français, juger la loi, c'était toujours administrer. J'aime beaucoup cette forme. Denis, vas-y.
Oui, en guise de préface, il me venait à l'esprit en écoutant Armel que... Une chose qui m'aurait beaucoup intéressé, c'est qu'il y a un membre du Conseil constitutionnel ici, ou un défenseur ardent, en tout cas quelqu'un qui prendrait le parti inverse de celui qui a l'air de dominer nos débats, qui est celui des ondes du scepticisme par rapport à cette jurisprudence. Et ça m'intéresserait réellement, mais en général, il est très difficile de mettre en scène une telle discussion parce qu'elle n'a pas lieu, et plus on met les gens dans la même salle, moins la discussion a lieu, Nous, on est un peu plus sur la réserve, on essaye. Et puis, de toute façon, je pense que si tu disais devant toute cette personne-là idéale, cette jurisprudence est scandaleuse, la personne te répondra, c'est ce que vous dites vous, qu'est-ce que vous... Et ça me frappe. C'est-à-dire, au fond, il y a une sorte d'interdit. Je pense qu'il y aurait deux réactions possibles, parce que j'imagine deux sortes de personnalités. Les unes venues de la haute administration, avec une culture un peu préfectorale d'autorité, tout dire, monsieur, ce que vous dites là est inacceptable, vous allez vous arrêter. Ou alors, il y aurait des gens beaucoup plus accommodants qui diraient « Ah, mais non, mais il fait tellement de bien, on a tellement besoin de lui. » Enfin, et tout ça sont des variétés de la non-discussion. Je suis frappé du fait que nous qui essayons, soit une politique, soit dans notre projet AMR, de mettre en place une discussion de ce genre-là, ça ne se présente jamais. Il y a un fait derrière ça. Il y a quelque chose que j'ai. Il y a un élément de sociologie de la connaissance que j'aimerais bien insérer. Je voudrais juste dire, ça c'était ma préférée. Un mot pour cette affaire de la vérité. Est-ce qu'on va croire que c'est la vérité? On est tous bien modernes, on est tous bien conscients que la vérité c'est largement construit. Et notre question c'est plutôt quels sont les dispositifs de construction, comment tout ça est bâti. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et en France, je trouve que le point de départ, c'est une opposition, c'est un couple d'opposition entre la politique et le droit. Et la question n'est pas de substituer la vérité de la politique tout aussi introuvable à la vérité du droit à laquelle on a l'impression de ne pas croire, c'est que dans la manière dont ça est dit, ça parle, on nous dit, j'avais été frappé par une citation de Robert Badinter qui avait dit au moment où la loi sur le génocide arménien était venue dans le juge constitutionnel, Badinter avait dit « Ah ça c'est bien, on va enfin laisser sa chance au droit ». Et j'avais trouvé, c'est-à-dire on met la politique de côté et on laisse le droit parler, et le droit, qui est donc l'inverse de la politique, joue un rôle cathartique, un rôle de purification, ce qui veut dire d'ailleurs, ce qui est une antiphrase, la phrase de Badinter, parce que ça veut dire donc que le droit joue un rôle politique puisqu'il est capable de... de purifier la politique, c'est cette atmosphère kantienne où la politique doit s'effacer, où le droit doit prévaloir, sauf que c'est un droit extraordinairement saturé de politique. Au fond, une des choses que j'avais essayé de faire, mais qui travaillait dans ma tête, c'est là qu'on voit que le directeur adjoint, c'est un boulot, c'est un article d'Olivier Gault, où il avait expliqué de manière convaincante, évidemment, que l'État n'était plus un objet pour les administrativistes. J'en étais entièrement d'accord, et au fond, je m'étais dit, chez les constitutionnalistes, ça marche comment? Et c'est vrai que ces policiers argumentent sans que je l'ai vraiment fait exprès, du coup, qu'ils pointent tous en direction de l'État. Et que c'est la manière qu'a le Conseil d'État, des anciens conseillers d'État, des gens qui ont eu l'idée de l'État. Je pensais, en écoutant Armel, on parlait de José Marigny, à ce membre du Conseil constitutionnel qui commençait chacune des discussions en 61 ou en 62, par oui à De Gaulle. On me dit, mais ça, c'est pas le problème. J'ai quand même envie de le dire.
Et, 62.
Et au fond, ça, c'est ça qui me frappe en France, c'est que c'est notre ontologie politique à nous, c'est qu'on met en opposition le droit et la politique, on pense que le droit va résoudre les problèmes politiques, et à certains égards, il le fait. On dit, nous, on trouve tous que c'est pas très opérationnel ce dispositif, et je pense que le personnage que j'inventais tout à l'heure, qui serait pas d'accord avec nous dirait que du coup, ça marche très bien. D'ailleurs, les gens sont d'accord, ça fonctionne, ça résout les problèmes politiques quand on vient les soumettre au juge constitutionnel. Jusqu'au jour peut-être où il y aura, et ça commence, des féministes qui manifesteront devant le Palais Royal, des gens qui représenteront cette politique transnationale qui est autre chose que la politique nationale française, et qui diront ben, « D'où parles-tu, camarade ?» puisqu'on est dans les citations révolutionnaires. Qu'est-ce que c'est que ce juge qui prétend universaliser, qui prétend parler... En surplombant la politique, à l'évidence, ce sont d'ailleurs tout ce que vous voudrez, vous savez, des mâles, je sais pas quoi, qui veulent
que leur
voilà, tout ce qu'on voudra, ça m'est un peu indifférent, des agriculteurs qui trouveront qu'il n'y a pas d'agriculteurs au Conseil constitutionnel. Il y aura une conception différente de la politique à laquelle la France n'est pas habituée et à laquelle cette ontologie politique du Conseil constitutionnel pour laquelle elle n'est pas faite. Et ça sera probablement un moment intéressant parce que ça. C'est aussi une chose que je voulais dire, c'est que ça mettra peut-être fin à l'attitude de beaucoup de professeurs de droit que j'appelle de subordination heureuse. C'est-à-dire, on a enfin un censeur à aimer, on a enfin du matériau qui nous est donné, on peut enfin se soumettre paisiblement. Ça, je dois dire que je comprends pas. C'est que j'arrive même pas à comprendre. Donc, qu'on puisse vouloir faire ça dans la vie est un truc qui pour ma part, me bluffe.
Pierre.
Je voulais revenir à la question de l'autorité, parce que en repensant à une question que Michael posait tout à l'heure, finalement, que veut-on ? Mais je ne veux pas parler trop longtemps. Non, la deuxième session est censée commencer à quelle heure ?
On va bientôt terminer la première.
Bon, j'essaye d'être bref pour... D'accord.
Une petite pause de 10 minutes, un quart d'heure. Ensuite, on commencera la deuxième session. Donc, je rappelle, la salle pourra intervenir.
Le membre du conseil Corel, l'arrivée, tu vois,
la sortie. Hein.
Mais, pardon, juste une incise, quand tu parlais de... quand tu... Bon, ouais, non, je ne vais pas y arriver. Non,
là, tu es en train de parler.
Si bien, tu vas pas parler.
Oui, c'est pas grave.
Non, 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 vas-y, bien.
Alors, j'étais juste en train de... Surtout que... J'essayais de me concentrer, là. C'est la question de l'autorité, parce que... Michael tout à l'heure se demandait, mais finalement, que veut-on ? Est-ce qu'on veut que ça marche ? Est-ce qu'on peut croire que ça va marcher, etc. Je ne sais pas ce que c'est que ça, mais si la question est comment est-ce qu'on peut arriver à des décisions à des décisions d'un conseil constitutionnel ou à des décisions d'une cour constitutionnelle qui soient un peu plus convaincantes, je ne sais pas très bien ce qu'on cherche exactement, mais qui nous impressionnent peut-être un peu plus. Je crois qu'il faudrait déjà s'interroger plus à fond sur la question de l'autorité des décisions de justice en France par rapport à ce qui se passe ailleurs. Moi, je suis frappé par le fait que en France, on part de l'idée, et on semble partager l'idée, qu'une autorité, l'autorité d'une décision vient d'une forme de concision. L'autorité vient du silence, en quelque sorte, que l'on va garder sur un très grand nombre de points, d'où d'ailleurs le refus très largement partagé, je crois, des opinions dissidentes chez les membres du Conseil constitutionnel, qui peut s'expliquer très bien par le mode de composition, je ne l'exclus pas du tout, mais le fait est que voilà, ils sont sans doute très embêtés, alors que, à l'inverse, l'autorité que l'on gagne en politique vient de ce que l'on est capable d'être long, de développer un grand nombre d'arguments. On peut peut-être alors généraliser, c'est pas seulement français, mais l'autorité des décisions allemandes, américaines, autrichiennes, espagnoles, etc., vient aussi de ce que il y a une argumentation qui est assez longue. La cour italienne est souvent quand même dans une proportion qui est assez modeste, mais qui malgré tout, effectivement, la cour européenne, l'homme, enfin, bref. Donc voilà, il y a une conception de l'autorité de la décision de justice qui, à mon avis, n'est pas la même partout et qui peut expliquer que il y aura toujours une forme de résistance, ou en tout cas, il y aura peut-être longtemps une forme de résistance à une motivation autre que celle que tu invoques. C'est pas seulement lié à la composition, je crois, ou seulement lié aux origines historiques du Conseil constitutionnel, etc. Et ça ne changera rien sur le fait qu'on n'y croit pas plus, c'est-à-dire que je ne crois pas plus à la vérité du droit dans une décision de 100 pages qu'en une décision de 20 lignes. Simplement, effectivement, il y a des arguments, disons, de démystification qui fonctionnent moins dans certains cas que dans d'autres. On se focalisera pas sur effectivement la concision, le laconisme et donc une forme de brutalité dans l'argumentation quand on est face à une décision de 200 pages. Mais en revanche, on sera perdu parce qu'on trouvera pas la décision. On aura des tas d'arguments et on sera très embêté, comme le sont nos collègues allemands, en se demandant mais finalement quelle est la thèse, enfin, quelle est la décision. Voilà. Donc voilà, la critique interne se fera sur ce plan-là. La critique externe restera la même, à savoir, de toute façon, ils sont allés chercher dans tel endroit plutôt que dans tel autre, ils ont ouvert telle porte plutôt que telle autre, ou alors ils ont cherché à ouvrir toute l'Europe. Ça ne changera rien sur le fait que, pas de vérité plus que ça. Simplement, effectivement, après, c'est une question d'appréciation en termes politiques de la décision. peut-être que nous préférons, parce que nous vivons à une période qui veut que l'autorité s'explique et se justifie, alors nous avons une tendance peut-être naturelle à préférer des décisions un peu plus longues, un peu plus étoffées, un peu plus explicatives.
Une petite intervention, Michael, oui. Parce qu'on va bientôt...
Oui, juste à propos, quand moi je posais la question de savoir qu'est-ce qu'on veut, je ne me retrouve pas dans ce que tu dis, Pierre. Moi, je veux des décisions moins bien formulées, plus incohérentes, beaucoup moins impressionnantes. Le fait de renoncer à l'idée d'une vérité du droit et de considérer le juge comme un organe politique, ça veut dire aussi qu'on change la nature de l'argumentation. Et dans la politique, il y a des meilleures argumentations ou d'autres, mais ça ne fonctionne pas de la même manière. Et c'est pas toujours ce qu'il y a de plus impressionnant, et c'est pas toujours ce qu'il y a de... Peut-être, il y a un peu plus de cartes sur la table, peut-être il y a un peu cet élément-là, mais précisément, moi je ne sais pas si ce que nous voulons, ça me paraît pas du tout clair dans notre discussion, en tout cas c'est pas ce que je veux, avoir quelque chose de mieux. Moi, je veux pas quelque chose de mieux. Je crois que Denis veut pas quelque chose de mieux non plus.
En même temps,
je veux non, oui. Je veux du plus franc, peut-être. C'est-à-dire, je veux ce que c'est. Je veux ce que c'est, oui, ou je veux rien, oui. Mais si je voulais quelque chose, je voudrais ce que c'est. Et je voudrais vraiment ce que c'est.
Ça, je suis pas trop sûr que ce soit possible, Michael, parce que...
Et c'est pour ça que je ne veux rien.
Il s'agit quand même d'un juge, donc malgré tout, il y a quand même des choses qu'on peut pas dire.
C'est ce que je soulignais tout à l'heure.
C'est quelqu'un qui veut apparaître comme un juge.
Oui, mais c'est ce que je soulignais. En revanche, la suivante, c'est que c'est toujours un juge.
En revanche, me semble-t-il, à partir du moment où c'est de la politique, ce qu'on peut peut-être souhaiter, en tout cas c'est ce que moi je souhaiterais, c'est qu'il y ait un minimum de la délibération et du débat contradictoire, un minimum. Mais peut-être qu'on aura l'occasion, sûrement l'occasion, de revenir un peu plus longuement sur toutes ces questions dans la deuxième partie de ce séminaire.